les potes. Hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi dans de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gaffe les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi dans de la voilà papa. Et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé, Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini, rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Yana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et dit tes potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'là qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dit tes potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dit Bobby, si ton papa que tu cherches, ben je vais te le rendre.
Hello, bonjour, bonjour, bonsoir. Voilà, vous êtes bien sur Radio Canus, c'est bien la causerie, comme tous les dimanches soirs de 22h à 23h. On fait un peu notre entrée, hein, parce que c'est le mot à la mode, en fait. Je sais pas... Waouh, quelle belle cloche. Et donc... Et donc, la causerie, bah, c'est toujours Emma.
Oui, bonsoir.
À la technique, on a Fab...
Bonsoir.
Et qui assiste Clara.
Bonsoir.
Et voilà. Et moi-même,
Jean-Yves. Bah, Jean-Yves.
Voilà, bonjour, c'est Jean-Yves. Ça. Bonsoir, bonsoir, merci. On espère que l'été s'est bien passé pour vous, du moins pour le mois d'août, parce qu'on s'est quand même entendu assez tard dans la saison. Donc voilà, qu'est-ce qu'on dit? On rappelle peut-être merci. L'adresse. Oui, on dit merci, c'est vrai. Eh bien tiens, je vais commencer par un merci. Ah. Merci à... Je ne sais pas si je prononce bien, à Clance, qui a laissé un commentaire sur le blog. On y répondra, on y répondra.
On y répondra un jour, oui.
Non, mais bah moi, je ne sais pas quoi répondre à un commentaire
comme ça.
Attendez,
moi non plus, je ne sais pas.
Bah oui, quand même. Donc voilà, on se rappelle peut-être l'adresse mail.
lacausericanu@gmail.com.
Merci. Et on peut peut-être rappeler aussi qu'on a un blog où vous pouvez retrouver toutes les émissions toutes les émissions passées et à venir, hein, bien évidemment, sinon ça perd de son sens un petit peu. Et donc Emma, peux-tu nous rappeler?
Oui, je peux. Moi j'étais la première de la classe pour ça. Donc c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà. C'est formidable, vraiment, c'est génial, quoi.
Oui.
Ah non, je croyais que t'allais dire quelque chose.
Bah non, rien. Je voulais... Bah si tu veux, je peux te dire qu'on est aussi sur face de Plouc et que
c'est ça.
Si on nous cherche, on nous trouve. Ouais, c'est comme ça que ça se passe.
Ouais, c'est ça. Si tu cherches des embrouilles, t'as vu, quoi. Donc voilà. Mis à part ça.
Bah mis à part ça, moi, je comme tu es dans les merci, moi je voulais remercier. je peux pas y arriver. Je vais sortir une commune, j'y arriverai pas, donc je vais la faire sérieusement.
Bah là, elle tombe à l'eau.
Remercier un groupe qu'on aime beaucoup qui nous a autorisé ce soir à passer un titre 2, mais vous verrez tout à l'heure.
C'est ça.
Voilà.
Mystère.
Teaser.
C'est horrible. Bon.
Eh bien, Jean-Yves, toi, tu voulais nous faire un petit tour des vacances, ouais. Justement, mais à ta façon.
Ouais, à ma façon, mais c'était juste pour se rappeler, en fait, que ben, même si la causerie n'était pas à l'antenne, le monde n'a pas arrêté de tourner.
C'est vrai?
Oui, je préfère quand même prévenir tout le monde. Hein. Ça s'est pas arrêté. Hein.
Ah ouais?
Oui, non, c'est complètement fou. Et donc, il s'est passé... Pardon.
Ouais, c'est Jean-Yves n'a pas arrêté de courir pendant l'été.
Non, c'est sûr. Hein?
pas maintenant le fou rire.
Non, pas tout de suite. Enfin, je sais pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, sourire qui a été récompensé. Hein. Pardon.
Oui, son rire a eu un prix.
Oui, j'ai eu un prix.
Le prix du meilleur rire des voisins. Enfin, un truc bizarre.
Ah merde.
Oui, on reprend, bon. C'est la cause.
Oui, c'est ça.
C'est pas non plus l'émission géopolitique de...
Ben non, hein, même si on en fait, on la fait pas cul serré, quoi. Oh, on reste ouvert.
Bon, ben voilà.
Pardon. Oh, non, allez, on se reprend, donc. Et on essaie de faire ce petit tour des infos qui sont passées cet été. Et qui, pour certaines, continuent d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, comme dit, les fous de Dieu, ils continuent d'avancer un petit peu partout, alors de façon plus ou moins violente. Bon, il y a certaines techniques quand même qui sont assez violentes, enterrer des gens vivants, tout ça. Bon, voilà, c'est quand même, ça continue, on avance. Hein. L'été est toujours tout beau, tout chaud. Et après, ils s'appuient sur Dieu, hein, mais tout ça, c'est toujours pour s'accaparer des puissances, des richesses, etc. Hein, ne l'oublions pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh ben après, c'est un autre méfait de la religion, quand elle n'est pas là où elle doit être, c'est-à-dire dans le domaine privé. Ça s'est passé en Irlande.
Moi, je croyais que c'était tout de suite dans le même domaine privé. Moi, je dis que c'est au même rayon que les trucs de fantasy.
Oui, voilà. C'est vrai. Mais c'est pas vendu comme ça. Hein. En tout cas, le business y tient, quoi.
Pardon.
Et donc, ça s'est passé en Irlande. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être ou pas. C'est une femme de 20 piges environ, je crois. Alors, j'ai pas l'âge exact. Ça n'a pas vraiment d'importance, au final. Qui a été obligée d'accoucher sous césarienne. Par césarienne, après 25 semaines de grossesse. En fait, au bout de 8 semaines, elle a réalisé qu'elle était enceinte. En se disant victime d'un viol, et en fait, elle a demandé à recourir à l'IVG. Sauf qu'en Irlande, l'IVG, c'est interdit depuis 83. Wouh, trop bien! Et donc, elle a menacé de faire grève de la faim. Elle aurait fait aussi une tentative de suicide.
En fait, elle a fait grève de la faim parce que le seul cas en Irlande où tu peux avorter, c'est si la mère est en danger du fait c'est de ça. La grossesse. Donc, elle a tenté de se. Une grève de la faim pour se mettre en danger pour pouvoir avorter.
C'est ça. Sauf qu'en fait, les autorités ont dit non, tu vas accoucher. Donc voilà, c'est toujours super sympa. Ça se passe vraiment pas loin de chez nous, hein. Vous savez.
Ils l'ont nourri de force en plus.
De force, etc. Enfin bon, fallait mettre le marmot au monde, quoi. Hein.
Quand même, oui.
Donc tout ça, c'est aussi par des fous de Dieu, hein, quand même. Hein. Alors lui, il a un autre nom pour cela, mais la logique reste toujours la même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Eh ben, il y a toujours l'Ukraine et la Russie qui se mettent sur la gueule. Bon, ben, au milieu, il y a des gens, c'est vrai. Mais bon, là aussi, hein, c'est qu'une histoire de puissance et de se réapproprier des richesses. Donc, voilà, ça continue.
Et des accès à la mer, d'ailleurs.
Ben oui, bien évidemment. Il faut des accès à la mer, il faut un port, il faut tout ça, quand même. Enfin, pour être un grand pays. Dis donc. Tu te souviens pas de la grande URSS, tout ça?
Moi, je m'en souviens, mais a priori, Poutine aussi.
Oui, et je crois qu'il en rêve un petit peu de ça.
Un peu trop, oui.
Mais il n'est pas bête, hein, parce qu'il ne se réfère pas du tout à l'URSS, il se réfère à la grande Russie des tsars. Donc, ce qui est un peu près pareil.
Ce qui est un peu l'équivalent, oui, mais dit autrement.
Voilà, mais ça fait moins, genre, je suis nostalgique de ceux qui m'ont formé, vu qu'il est ex du KGB.
Ah oui. Voilà, non, ça fait, je suis nostalgique de ceux qui ont formé, ceux qui ont formé, ceux qui m'ont formé. C'est assez sympa, quoi. Donc l'élite continue de s'accaparer toutes ces choses-là, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, le bon peuple, il est utilisé pour la chair à canon, que ça soit d'un côté ou d'un autre. De toute façon, ceux qui se battent, ils n'auront jamais rien. Ou alors, si, ça sera partie de cette classe-là qui va s'accaparer les choses. Enfin, bref.
Si, ils ont des commémorations une fois qu'ils sont morts.
C'est ça. C'est ça. Ils ont des places dédiées à leur nom avec des stèles, tout gentil. Ça. Bah oui. Enfin.
Parfois, juste un bouquet de fleurs.
Oui, c'est vrai.
Pas non 3 jours.
C'est ça. Et on ne se souviendra plus de toi. Et puis, à côté de ça, on a eu un cessez-le-feu depuis le 26 août. En Israël et en Palestine, ce qui est quand même bien pour le peuple, pour les peuples, parce qu'au final, voilà. Et donc, en même temps, quelques jours plus tard, le gouvernement israélien a dit qu'il s'accaparait de 400 hectares de terre en Cisjordanie. Donc, pour sceller une paix, moi je trouve, en tout cas, un cessez-le-feu, hein, parce que c'est pas une armistice, hein, c'est un cessez-le-feu.
C'est une armistice, justement. On fait taire les armes, c'est tout, quoi.
Oui, mais il y a pas d'avancée diplomatique, il y a rien du tout au final.
C'est
ça, en fait, statu quo quoi. Ouais. Donc voilà, c'est cool hein. Donc tout ça vraiment c'est vraiment sympa. Et mais puis
juste préciser parce que ça m'a fait rire, moi excusez-moi, c'est que en plus ils l'ont annoncé en disant en fait, on est obligé de les annexer parce qu'on est déjà là. j'ai trouvé la raison géniale. Donc tu prends une terre, tu mets des colons et après tu dis bah on est obligé parce qu'on est là.
Bah alors justement, alors moi j'ai
bah, étrangement ça c'est déjà fait dans par le passé hein, on s'en souvient tous et c'est pas des époques très glorieuses.
Ben non, et alors après ce que j'ai lu quelques infos, certains disent en fait c'est une technique du gouvernement israélien pour ensuite dire on a une solution à un seul état.
C'est ça.
Et donc, au final, ouais, enfin, c'est...
De toute manière, le but ultime de tout ça, c'est qu'il y ait un seul État, enfin, du côté d'Israël, et avec une main-d'œuvre prolétarienne pas chère, qui seront les Palestiniens. Et
bah,
on sent bien que, de toute façon, ça se profile derrière, et il y a toute une théorie, enfin, un relent fascisto-raciste qui se met en place en Israël aujourd'hui. Et on sent bien qu'on a les mêmes discours que certains dans les années 70 en France avec ces gentils, excusez-moi, je cite Bougnoul qui viennent travailler sur dans les champs ou dans les trucs de voiture. Et on a exactement la même logique que le patronat français dans les années 70 qui voit qu'il y aura une main-d'œuvre pas chère, quoi. Clairement.
Et oui. Et puis, ben, à côté de ça, ben, l'Afrique se meurt toujours doucement de l'Ebola, qui continue d'avancer petit à petit. On est quand même à quelques milliers de morts. Donc voilà, on a quelques labos qui sont sur des pistes, etc. Ben, on leur souhaite au plus vite que ça puisse.
Et un grand merci à Médecins Sans Frontières.
Oui, parce qu'au final, c'est vrai que c'est une asso qui est très souvent sur le front et qui sont souvent les derniers à y être, en fait. En fait, tu te rends compte, je sais plus dans quel pays c'était. C'était il n'y a pas longtemps, enfin bref, et au final c'était les seuls qui restaient, même l'État s'était barré, enfin tout le monde s'était barré, et au final tu te dis bon.
Bah là pour Ebola, je crois, j'avais lu, ils ont pris 90% des cas en charge.
Ouais, c'est
oui,
énorme.
C'est énorme. Ouais.
C'est énorme.
C'est même irréel, quoi. C'est-à-dire que on voit le degré de pauvreté de ces pays, pauvreté entretenue, on est très clair. Hein. La Sierra Leone, c'est pas un pays pauvre, hein. faut être très clair. C'est un pays où il y a des richesses, mais où on donne pas aux pauvres. Mais on voit franchement que, pour se dire que c'est MSF qui prend la majorité et pas les hôpitaux publics, on voit vers quoi ils ont mis l'argent, quoi. Pas vraiment dans l'hôpital public.
Non, pas vraiment, effectivement. Après ça, il fait aussi toujours très. Enfin, c'est pas bon d'être noir aussi aux États-Unis. Unis en tout cas, parce qu'on continue de se faire tirer dessus à 18 piges en fait. Il s'appelait Michael Brown et il avait 18 piges, il s'est pris 6 balles dont 2 dans la tête et il n'était pas armé. Voilà, ce qui a créé quand même quelques émeutes aux États-Unis et ce qui a aussi un peu remis à jour quand même certaines choses qui au final n'ont pas foncièrement disparu dans plein d'États. Et je disais justement autour de cette mort-là, c'est que ça se passe dans le Missouri. Oui, c'est ça, ça se passe dans le Missouri et certains politiques ou analystes, en fait, ils disent, en fait, le Missouri, c'est comme il y a 50 ans, quoi. Donc tu te dis, bon, bah, c'est toujours encore la première puissance du monde et c'est toujours encore aussi, enfin, c'est vraiment, je trouve qu'il y a une violence de clivage, quoi.
Ouais,
après,
aux États-Unis, ouais.
Après, je sais pas si je me mens et que je vois pas ce qui se passe en France, mais j'ai l'impression que les États-Unis, enfin, il y a un clivage qui est vraiment ouf, quoi. Enfin, une séparation de la société qui est vraiment dingue, quoi. Enfin, voilà. Et donc, le policier, je crois qu'il est mis de côté par la police des États-Unis, en tout cas dans un endroit secret, etc.
C'est gentil de leur parler le mettre de côté, parce que celui-là, je voudrais pas trop qu'il circule encore dans la rue.
Non, c'est sûr. Et puis, quoi d'autre? Ah bah si aussi, bah ça s'est passé en France en plus, enfin j'allais l'oublier. On a eu un nouveau gouvernement.
Oui.
Je sais pas si vous l'avez appris. Oui, attention, là c'est...
Si tu veux dire qu'on a un gouvernement de gauche ?
Ah non, c'est à droite toute, là on y va à fond, hein, on y va à fond, donc... Ça s'est passé le 26 août et puis bah le lendemain, le 27, Monsieur Valls ou R. Valls, ça dépend comment vous voulez l'appeler, ou je ne sais pas, il y a d'autres noms d'ailleurs.
Maréchal Valls.
Maréchal aussi, j'y ai pensé, ça lui va bien en plus. Donc le lendemain, il était à l'université d'été du MEDEF. Quand même pour un signal de dire bonjour.
Il s'est fait huer, bien sûr.
Mais bien sûr, tu imagines bien. Ils sont tellement de gauche. Non, en fait, il a été ovationné. Hein, mais vraiment, ça a été une ovation comme Jean-Patrick Bruel à Paris-Bercy, quoi.
Ah ouais.
Ouais, je sais pas si ça...
Manuel.
Ouais, je pense qu'ils se sont un peu retenus parce qu'il y avait des caméras, parce que ça aurait vraiment trop paru louche, tu vois.
Mais le cœur battait à 100%.
Ah, mais carrément, quoi. Ah. Mais carrément, vraiment, il y a des choses assez folles. Et donc, ça a commencé par J'aime l'entreprise, c'est bien, bravo. Il a raison, hein, je sais pas.
Il aime les salariés, c'est ce qu'il a voulu dire.
Non, il a dit il aime l'entreprise.
Ah, l'entreprise.
Non, c'est bien, il arrive à dire quelque chose que personnellement je peux pas dire. Je le félicite. C'est, bien.
C'est ça, c'est assez intéressant. Et donc en même temps, ce que je me disais, c'est au vu des propos, heureusement qu'il a été ovationné, quoi. C'est, enfin, il fait tout pour, quoi. Donc ça aurait été dommage qu'il passe à côté d'une standing ovation, quoi. Et donc. J'ai quand même retenu les derniers mots qui disaient, c'était « Nous devons agir avec responsabilité, patriotisme et confiance dans l'avenir. » Et je trouve que tu sens l'autoritarisme, l'état fort et... putain, je pense qu'il bandait dur. Hein. Donc, avec ça, ça s'est accompagné quand même de nouvelles nominations et de certaines, comment dire, mises de côté de certains ministres. En fait, parce qu'ils n'étaient pas assez à droite, en fait. Et être PS et pas assez à droite, c'est franchement pas facile, quoi. Donc.
C'était au centre.
Pardon.
Pas des centristes.
Non. Et donc, en fait, en ministre de l'économie, on a un ancien banquier qui vient de chez Rothschild. Mais avant ça, il a fait un an chez Rothschild. Et avant ça, pendant 4-5 ans, il était un bon banquier, tu vois. Mais un bon banquier, pas celui qui est derrière le guichet quand vous y allez, vous, hein. Vous savez, ceux qui sont dans les arrières-salles, quoi.
Banquier d'affaires, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est ça, donc c'est vraiment pas le ouvre, quoi.
Macron ?
Alors non, c'est Macron.
Macron,
oui.
Ouais, pardon,
non, Macron, ça serait été trop simple.
Ça fait une ville, donc ça m'allait bien.
Oui, c'est vrai. Et donc, voilà, et puis on a aussi, alors, je crois qu'il s'appelle Rabzamen ou Rebzamen.
Rebzamen.
Oh, mais il est formidable.
C'est pas facile à dire. Pourtant, on va en entendre beaucoup parler.
Ah, on va en entendre parler. Parce que quand même, ils ont quand même parlé de revoir le travail du dimanche, qu'il faut donc ça veut dire, enfin ça veut dire plein de trucs, mais on va les laisser venir, hein, comme si on n'avait rien vu, rien entendu. Alors ils ont aussi parlé des allègements, des impôts, parce que quand même c'est vachement dur
pour les entreprises.
Pour les entreprises, bien évidemment. Enfin, je veux dire, oh, il faut relancer la machine. Hein. Tu crois que c'est avec les gens qu'on relance une machine ? Il l'a dit, Nicolas. C'est énorme. Non mais il l'a dit, Emmanuel.
Manuel, s'il te plaît.
Pardon. Il me perturbe ce monsieur. Vraiment, il me fait peur, je crois.
C'est sa couleur qui te.
C'est ça. Il faut qu'il apprenne à vieillir. Enfin bon, bref. Et donc voilà. Enfin, c'est toujours la merde. Attendez-vous à ce que ça soit pas mieux, peut-être pire, voire certainement pire, parce que ça veut peut-être dire aussi qu'on va aller vers, comment dire, une flexi-sécurité, ce qu'on a déjà fait, mais il y a la flexibilité aussi dans les horaires, etc. Ils veulent taper sur les chômeurs. Et alors, j'ai vu cet après-midi un petit graphique qui était intéressant. C'était sur le travail... Oh, si tu oublies la moitié de ce que tu dois dire.
Ça se passe moins bien.
Mais oui, sur le boulot, vous savez, les petits boulots, en fait.
Oui, les petits métiers.
Ouais.
Les trucs qui font pas 35
ans. Voilà, c'est ça. Et en fait, genre, en Allemagne, c'est, je crois que c'est 2% environ des salariés, quoi. Ce qui n'est pas rien. Et en France, on est à 0,6. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être vers là qu'on va aller avoir plus de précarité et te dire que, bah, attends, si tu travailles 10 heures, c'est déjà 10 heures, quoi. Et c'est déjà vachement bien, quoi. Donc, ça va être, je pense, un peu plus de merde pour les plus pauvres et tout. Toujours un peu plus de gras pour les plus riches.
Mais ça s'est vu à la réaction de Rebsamen quand il disait il y a 900 000 emplois non pourvus en France.
C'est ça.
Et en fait, il se base sur les chiffres de Pôle emploi. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même des gens qui lui ont fait remarquer que c'était 900 000 si on comptait, par exemple, les emplois à 2 heures.
Oui.
C'est-à-dire, il y a des emplois où on a besoin de vous 2 heures par semaine. Et c'est notamment les emplois de service, des choses comme ça. Et il y a des gens qui disent, mais on peut pas considérer que ça, 2 heures, c'est un emploi.
Bah,
sinon, on part dans un sens qui est. Et il a répondu à quelque chose qui est, qui moi m'a glacé le sang, mais qui va sûrement plaire à tous les fans de la valeur travail. Hein. C'est vaut toujours mieux ça que rien.
C'est
alors,
ça.
Je trouve ça génial. Ça vaut toujours mieux 2 heures par semaine et pas pouvoir bouffer que rien. J'adore
son. Et en n'oubliant pas, alors ce que je voulais dire aussi, c'est en n'oubliant pas que tous ces gens-là, là, qui vous disent que le travail c'est tellement formidable, ces gens-là, ils ont jamais bossé. C'est-à-dire qu'ils ont jamais été dans des tafs de merde parce que ils ont cul doré et bordé de nouilles, comme on dit, depuis assez longtemps. Ils font des grandes écoles et ils se positionnent dans des tafs qui sont pas celles que vous connaissez, quoi, et celles qu'on connaît, nous, dans la vraie vie. Donc voilà, enfin bref. Et ce que je voulais aussi juste rappeler, c'était, on en avait parlé avant les vacances. Quand on dit qu'il n'y a pas assez de richesse, etc., n'oublions pas, comme je disais avant, comme on en parlait avant les vacances, que les bénéfs, enfin, les plus riches, ils ont 390 milliards. Les plus riches, ils sont 500. c'est peut-être là. Et leur bénéfice a fait un bond de 25%. C'est peut-être qu'il y a de la thune, mais qu'elle n'est pas forcément prise là où elle devrait l'être. Voilà. Bon, bah, j'espère que l'été a été un peu plus joli pour vous quand même, mais faut pas l'oublier tout ce qui se passe. Bon, on passe un peu de zik et ouvrez bien vos oreilles. Parce que là, c'est bon, je vais pas me la raconter, c'est une exclu parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, je remercie, on remercie fortement les Kings Queer qui nous font passer un de leurs nouveaux titres et c'est une avant-première avant la tournée qui s'appellera No Border Tour et un album qui est en prépa. Et on les remercie chaleureusement. Et on s'écoute ça.
Frères d'armes, le sang s'équipique. L'armée des survivants combattants étire inlassablement ces instants. Entre pénombre et lumière, élève le coude à chaque mise en guerre. L'appel des ombres et du sombre, happé par l'ombre de ton ombre. We'll be right back. On se souvient, on se rappelle de ceux qui n'aiment plus aux appels. On se souvient, on se rappelle de ces destins sans appel. On se souvient, on se rappelle de ces sourires à moitié cassés, brisés. On se souvient, on se rappelle de ces allures débraillées. On se souvient, on se rappelle de tous ces noms rayés, saturés. On se souvient, on se rappelle. On se souvient, on se rappelle. On se souvient, on se rappelle.
T'as vu ou quoi? Vous êtes toujours à la causerie et on vient de s'écouter Amen des Kings Queer. Et déjà on les remercie, enfin vraiment moi je les remercie beaucoup. Et donc voilà, et c'est un morceau qui est un clin d'œil hommage en fait à leurs influences, à leurs racines musicales et aux potes qui se sont paumés en cours de route. Voilà, et pour faire vraiment encore plus teaser, mais j'aime pas ça, en tout cas la semaine prochaine, normalement il y aura un deuxième titre qui est lui aussi est peu diffusé en tout cas. Voilà, ben on espère, enfin moi j'ai hâte d'entendre tout le reste de l'album. Donc voilà, au boulot les gars. Bon, la suite, je crois que c'est toi, c'est Emma, tu vas nous parler de Feminist Frequency.
Ouais, c'est
t'as
ça.
T'as vu, j'ai mis l'accent.
Ah oui, t'as mis l'accent là où il fallait.
T'as vu.
Entre mille. Oui, alors moi, ce soir, je voulais faire une petite brève, et c'est pareil, je déteste ça, mais je vais faire un teaser d'un sujet que je développerai bientôt. En fait, donc je voulais parler d'une youtubeuse. Alors vous savez, c'est ces personnes qui font pas mal de vidéos, en fait, exclusivement sur la chaîne YouTube. Alors la chaîne, en fait, c'est Feminist Frequency. Alors c'est de l'anglais comme on peut l'entendre, et en fait il y a la chaîne YouTube mais il y a aussi un site web qui correspond, donc je vais vous donner l'adresse tout de suite. Donc c'est féministe mais donc de l'anglais, donc sans le E à la fin, F-E-M-I-N-I-S-T, tout attaché, Frequency, donc c'est F-R-E-Q-U-E-N-C-Y .com. Donc en fait, la personne qui tient ça, c'est Anita Sarkisian, je ne sais pas si je le prononce bien. Elle a ouvert sa chaîne ainsi que son site en 2009. Alors Anita, en fait, elle est critique média. Elle a pour son background, comme on dit, une licence en communication et un master en, alors ce qu'ils appellent là-bas, outre-Atlantique, pensée sociale et politique.
C'est joli comme nom.
C'est joli comme nom, c'est un truc un peu fourre-tout.
D'accord.
Et du coup, les gens sortent de là un peu fourre-tout. Mais bon, je trouve qu'on n'est pas mieux en France, donc à la rigueur, hein, autant donner un joli nom.
Ça correspond un peu à la socio en France, quoi.
Ouais, un petit peu, en fait.
Ça correspond... En sortie de socio, des fois, il y a des gens, ils te disent « Ah, mais j'ai fait ça », tu te dis « Ah bon, c'est dans la sociologie ». Toi, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ouais, non, mais si, c'est un peu ça. Et en fait, ce qui est étonnant, j'avais déjà parlé, en fait, de Lacey Green, ici, et elle avait le même un peu parcours, et donc j'ai l'impression que tous les gens qui sortent de là deviennent un peu critiques médias ou s'intéressent au genre. Enfin, c'est ça qui est un peu drôle, quoi. Enfin, d'un côté, tant mieux, hein, qu'ils n'aillent pas s'enfermer dans des bureaux à nous pondre des discours tout fait et refait. Ouais. Donc voilà pour Anita, et aussi elle donne maintenant des cours à la fac et puis aussi à travers en fait sa chaîne. Donc au niveau de sa chaîne, hein, si vous voulez aller sur YouTube, vous tapez le même nom, donc Feminist Frequency, et là vous verrez, il y a plein de vidéos. J'annonce tout de suite, il faut bien faire attention en fait que ce soit bien relié la chaîne, que ce soit bien la sienne, parce qu'il n'y a pas eu, enfin pas mal de ce qu'on appelle des fakes, enfin des faux, des personnes qui s'attribuent son nom pour en fait faire des vidéos de moquerie.
C'est ça, pour en faire l'inverse en fait. Quoi.
Pour en faire l'inverse.
C'est ça.
Hein, le masculin, enfin les petits, vous les connaissez, ça commence par un M, ça suit par un M, un A. Ils sont généralement, oui, des
masculinistes.
Comment on dit? Voilà,
des masculinistes.
Ouais, des ouais. E. ça saurait, hein, s'ils étaient exclus des médias et qu'ils n'allaient pas traîner sur les réseaux sociaux,
enfin,
et tout ça.
Ça saurait, clairement.
N'est-ce pas?
D'ailleurs, c'est pour ça qu'Éric Zemmour a été viré cette année. C'est pas vrai, pardon.
Ah non.
Oh mince. Et donc, en fait, elle a pas mal de thèmes pour ses vidéos. Alors, en fait, ils sont tous liés à ce qu'on appelle la culture populaire. C'est un mot qui est surtout utilisé aux États-Unis, enfin, outre-Atlantique, même au Canada, pas trop en France, même si je crois que ça commence à venir. c'est tout ce qui fait référence en fait à l'univers des jeux vidéo, aux séries télé, aux films, aussi, ainsi qu'à la musique.
Ouais, c'est ce qu'on appellerait grand public en
fait. Ouais, ce qu'on appellerait grand public exactement en France. Hein. Et c'est vrai que ce qui est assez drôle d'ailleurs, enfin c'est une petite parenthèse, c'est que culture populaire ou la culture pop aux États-Unis ainsi qu'au Canada, enfin c'est pas du tout péjoratif, alors que en France aujourd'hui quand on utilise enfin on l'entend hein, le mot culture populaire ou grand public, il y a souvent des amalgames avec la culture de masse en fait qui est faite. C'est un peu enfin voilà, limite on nous dirait que la télé-réalité c'est grand public.
Oui. Ouais, ouais, non, mais il y a toujours ce côté négatif. Mais c'est, c'est l'élitisme à la française, quoi.
Exactement, enfin,
ouais. Tu sens le truc, oh là là, c'est populaire.
C'est populaire, voilà, exactement. Alors que la culture populaire là-bas, en fait, c'est simplement, enfin, ça regroupe plusieurs choses, mais il n'y a pas forcément de différence entre un élitisme. Enfin, par exemple, l'opéra peut être encadré dans la culture populaire. Enfin, c'est.
D'accord.
C'est plus tout ce qui regroupe les loisirs, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est accessible au plus grand.
Ouais, enfin, exactement. Ouais. Quoi, ouais. Et du coup, en fait, donc Anita, elle a fait une série de vidéos qui s'appelle Tropes versus Women. En fait, les tropes, ça a pas vraiment de traduction en français, mais en fait, ça serait la caricature. Et donc en fait elle a fait toute une série de vidéos là-dessus sur la caricature des personnages féminins, alors que ce soit dans les jeux vidéo, dans les séries ou dans les films. Et en fait il y a un truc qui est super intéressant, donc c'est qu'en fait elle décrit un personnage, moi j'ai trouvé ça, enfin c'était la première fois que j'en entendais parler. Et en fait ce qui est déjà bien sur ces vidéos, c'est que encore une fois elle est vachement accessible. Elle fait référence, c'est vrai, des moments à des mots et qui sont plus empruntés d'un certain vocabulaire, mais en général, c'est surtout que comme elle utilise des exemples de la culture populaire et en général, ça va des années, on va dire 80 à aujourd'hui. Du coup, en général, je trouve que ça prend une bonne génération de personnes et on voit tous un exemple. Mmh. Et donc là, en fait, elle parle d'un personnage qui est récurrent, et moi, j'en avais jamais entendu parler. Alors, elle appelle ça straw féministe. C'est STRAW, si vous voulez rechercher. J'ai pas trouvé vraiment d'équivalent en français, encore une fois, parce qu'il n'y a pas vraiment de mots. Mais en fait, c'est le personnage féministe qui serait un peu exagéré. C'est une caricature de la féministe. Et en gros, elle nous explique qu'en général, c'est utilisé par les scénaristes et il ne faut pas se faire prendre au jeu, c'est-à-dire que nous, on se dit oh, « c'est super, il y a une féministe dans telle série télé, ou dans tel film, ou dans tel jeu vidéo, c'est cool, il y a une héroïne. » Et en fait, en général, c'est pour prouver qu'un personnage, il est assez faux, ou alors s'en moquer. Et elle nous donne l'exemple de la série Véronica Mars. Alors, je ne sais pas, mais c'est une série en fait, qui est assez adulée, enfin, moi, je l'ai trouvée par les féministes, en général, parce que voilà, on a le personnage principal, Véronica Mars, hein, qui est fille d'un enquêteur et qui mène ses propres enquêtes. Et en fait, c'est un personnage complètement forte, indépendante, qui en plus, c'est pas, enfin, qui s'est exclue elle-même d'un groupe d'amis, justement, populaire et tout ça, qui est assez indépendante aussi dans ses relations amoureuses. Donc, voilà, c'est un personnage qui, en fait, qui a été créé et qui est assez, qui est assez sympa et qui, justement, sort de cette caricature de la féministe. Et elle nous explique que ça allait très bien pendant 4 saisons, il me semble, mais qu'à la dernière saison, ils ont décidé de nous coller 3 personnes qui sont annoncées comme féministes. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que même à l'écran, c'est 3 nanas qui ont des coupes garçonnes, et c'est ça en fait, et c'est ça qu'elle appelle les straw féministes. Et en fait, c'est des nanas qui sont complètement caricaturées. Et en fait, le but en général, c'est de décrédibiliser le personnage principal. Et elle nous montre plein d'exemples comme ça, que ce soit dans les Razmoquettes, Marier deux enfants, quelque chose.
Oui.
Ouais. Ouais. Il y avait, je crois, la voisine aussi qui était un peu décrite comme une féministe. Et en fait, elle nous dit
qui était plus une folle qu'une féministe.
Exactement. En fait. Et elle nous dit ça. Elle nous dit que le straw féministe, en fait, c'est des nanas qui ont souvent les bons combats, c'est-à-dire l'égalité, la parité. Mais en fait, le problème, c'est qu'elles sont soit folles, soit elles ont des maris, mais elles les écrasent complètement. Et du coup, en fait, ça perd le sens complètement de leur combat. Et c'est ça, c'est qu'en fait, leur personnage, et en général, même l'accoutrement. Alors, je sais plus, je crois que c'est dans les Razmoquettes, il me semble que c'est dans les Razmoquettes où en fait le personnage, je crois que c'est la tante qui est une féministe, a un merveilleux t-shirt avec le sigle de la femme, vous savez, qu'elle porte porte tout le temps, tous les jours. Et en gros, on nous dit que ça affaiblit et ça ridiculise souvent les propos de ses propres personnages. Et en fait, du coup, ça n'en est pas du tout des féministes, quoi, mais c'est pour s'en moquer. Mmh. Et donc voilà, elle fait une petite mise en garde en fait, là-dessus en nous disant « Attention, quand on vous propose une série, où, il faut y regarder à deux fois. »
Mais il y avait eu un très bon exemple par une série populaire, dans une série qui a extrêmement bien marché outre-Atlantique et ici, c'était Desperate Housewives, ouais. Où tu avais un personnage qui est Lynette Scavo, je sais pas si vous voyez, pour ceux oui. qui connaissent la série, qui est la femme d'affaires, mm-hmm. qui s'en sort bien, qui gagnait mieux sa vie que son mari. Et en fait, le créateur de la série a avoué qu'il a, il a renversé la vapeur en cours de, enfin, je crois, sur la troisième saison. Parce qu'en fait, ça plaisait pas. C'est-à-dire que comme c'était effectivement quelqu'un, un vrai personnage féministe cette fois-ci, c'est-à-dire qui c'est une femme qui travaillait, qui avait elle s'est d'un seul coup retrouvée de nouveau enceinte, elle s'est retrouvée à retourner à la maison et puis le mari quand même il a quand même été obligé d'ouvrir je crois sa pizzeria ou je sais pas quoi, mais voilà. Et en fait il y avait quand même un truc qui avait choqué les féministes américaines, qui avaient dit mais attendez, le seul personnage qui était à peu près cohérent et crédible dans une série, vous l'avez détruit. Et le créateur avait dit moi je me plie un petit peu à ce qu'on me demande, et je recevais plein de lettres qui me disaient ouais mais moi elle me fait peur quoi. Ah, vous voyez, c'est un peu le truc, c'est un peu fou. Et du coup elle était devenue une caricature, moi qui ai suivi la série je peux le dire, elle est devenue une caricature. Et jusqu'à au final où d'un seul coup oh là là, heureusement quand même qu'elle avait son gentil mari qu'elle aimait, et que bon ils vont quand même finir leur vie ensemble, ça va être merveilleux. Et ça avait tué totalement la base du personnage, qui au départ était quand même plutôt une femme, j'allais dire une femme forte, mais je trouve ça un peu, j'aime pas cette image là, femme indépendante. Et d'un seul coup tu dis c'est le but, c'était qu'il n'y en ait pas, quoi. C'était voilà, et qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas la volonté d'amener un discours différent de ce que tu as dans toutes les séries ou tous les films quasiment, quoi.
Ouais, c'est assez récurrent, et c'est vrai que autant, enfin, et c'est ça qui est étonnant aujourd'hui, c'est que ben justement la série Véronica Mars, elle est quand même, elle est contemporaine, quoi. Et en fait, c'est ça, et c'est exactement la même chose, c'est qu'à un moment le scénariste va écraser son personnage. Parce que sûrement pour rentrer mieux dans le moule, quoi. Et on perd en fait tous les acquis d'avant, en fait. C'est ça qui est assez dommage. Et en fait, pour finir sur Anita, elle a été victime, comme j'en avais parlé, de Lexi Green, d'acharnement un peu sur Internet. Alors Lexi Green, c'était parce que voilà, elle...
C'est rien, quelqu'un qui rentre dans les studios, tout va bien.
Très bien. Lexi Green, en fait, elle avait été victime d'acharnement, en fait, parce qu'on lui pensait une vie sexuelle, et puis du coup, elle était traitée de tous les noms. Mon préféré, c'est salope. Vous savez, comme j'adore ce mot. Et Anita, ça a été un peu pareil, en fait. Mais elle, ça allait vraiment plus loin. Elle a reçu des menaces, des insultes, mais des menaces de mort. Elle a été portée plainte, et pendant plusieurs semaines, elle a vécu cachée chez des amis, en fait, complètement. Donc voilà. Et en fait, j'annonce, mais je reparlerai plus tard de justement cette petite série des caricatures des personnages féminins, un peu par rapport au sujet des jeux vidéo.
Ça va être bien.
Voilà. Bon. Et ben, on s'écoute un peu de son.
Allez. Thank you.
Et vous êtes bien dans la causerie. On vient de s'écouter Warpaint avec Love is to Die.
C'était beau.
Ah oui, je m'en remets pas. Je les aime tellement.
Bon,
bah voilà. Désolée, c'était le moment fou.
Ah, c'était le moment grande fan.
Oui.
Personne ne veut me lancer?
Bah si, on va te lancer. Attends, on choisissait notre méthode.
Moi, je te laisse faire.
D'accord. Allez. Bah Fab, il me semble que tu voulais nous parler... je sais bien ce que tu voulais me parler, mais je savais plus. Si, des mouchards en entreprise.
Ouais. Bah en fait, ça vient de... Je vais vous raconter un peu ma vie, 36-15 my life. Donc en fait, on est partis en vacances. Et puis en vacances, j'ai entendu des gens dire des trucs qui, moi, m'ont fait un peu sourire. Alors par exemple, j'ai entendu des gens dans un restaurant dire « Ah, bah mon patron, il est sympa parce que, t'as vu, il m'a laissé mon iPhone pour les vacances et il me l'a donné dans la boîte. » Et puis j'en ai entendu un autre plus tard dire « Ouais, bah l'iPad 2 que j'ai là, tu vois, en fait, c'est mon entreprise qui me l'a donné. » C'est vachement bien parce que bon, bah, ça me sert à bosser, mais je peux l'emmener en vacances. Et là, je me suis dit, bah, dis donc, les gens ont vraiment pas notion de à quoi servent ces petits outils et ces petits objets que l'on vous donne. Alors, je vais vous poser une question pour voir si vous pouvez me répondre. C'est un petit quiz.
Oui, je vais gagner.
Alors, à votre avis, de quand date le fait de pouvoir suivre ses salariés en entreprise? Avec des moyens technologiques. Hein. Alors, Emma.
Toujours?
Ouais. Non. Avec des moyens technologiques.
Ah, mais j'écoute pas.
Et voilà, t'étais depuis... pas vraiment la première, toi.
Non.
Et ben, en fait, ça date des premiers GPS.
Bah oui.
C'est bête, ouais, hein, oui. Comme ça, mais on n'y pense plus parce que c'est de rentrer dans la vie courante, le GPS. On en a dans nos portables, on en a dans nos voitures, on en a partout. Et en fait, le GPS, dès la création du GPS, les entreprises, notamment américaines, ont demandé à pouvoir avoir ce qu'on appelle un relevé de position. C'est-à-dire que le GPS envoie en permanence où se trouve le véhicule dans lequel il se trouve. À l'époque, c'était dans le véhicule, maintenant, c'est dans le téléphone. Donc, bah, dès les années 80, en fait, dès les années 80, il y a eu une grande vague d'entreprises qui ont commencé à licencier ou à suivre leurs salariés. Donc les États ont essayé de mettre un peu d'ordre là-dedans, disant il faut faire des chartes informatiques, vous devez prévenir vos salariés quand vous utilisez un mouchard, blablabla. Alors tout ça, ça a été fait, sauf que moi je prends le pari, parmi les gens qui touchent un iPhone, un iPad ou un GPS ou une voiture avec GPS de leur boîte, combien il y en a qui vont lire la charte informatique pour savoir de quoi ont le droit d'utiliser les entreprises? C'est quasiment zéro. Et il suffit qu'il y ait écrit dans votre charte informatique, l'entreprise est propriétaire de toutes les données contenues dans le matériel fourni par les salariés, et ça veut dire que l'ensemble de ce que vous produisez par un matériel fourni est et reste la propriété de l'entreprise, et elle peut donc l'utiliser. Mais ça veut dire que vos emails aussi, par exemple, hein, réfléchissez-y quand vous écrivez avec votre boîte mail de professionnel. Mmh. Et bien, s'il y a ça dans votre charte, ça veut dire que on peut vous licencier, par exemple, pour un email où vous diriez du mal de votre boîte. Parce qu'ils ont légalement le droit de les lire. C'est la propriété de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut écrire personnel à un moment donné dans l'entête de son mail pour que la loi française uniquement permette d'empêcher qu'on l'utilise contre vous. Mais s'il n'y a pas écrit personnel à un endroit, eh ben, en fait, votre employeur peut prendre un mail et dire « Ah, eh ben, vous dites du mal de l'entreprise. » Le robot l'a lu, parce qu'ils diront jamais que c'est eux. Le robot l'a lu et on sait que vous avez dit du mal, donc on vous fout dehors.
Ouais. Mais même, je crois qu'il faut carrément les mettre dans un dossier personnel.
Oui.
Pour et enfin même il y a ce qui s'appelle la technique de la perruque au niveau du travail, et en gros où c'est tout le temps libre qu'on prend pendant notre normalement notre présumé temps de travail, et même un simple email avec un salut ça va ou qu'est-ce que je prends pour les courses, il faut bien attention à le mettre dans le dossier personnel, parce que sinon ça peut être aussi un motif de licenciement dans les entreprises un
peu
frileuses.
Tout à fait. Alors ça c'est l'exemple de l'email, mais alors il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui j'ai un peu fouillé, les iPhones par exemple, notamment le futur iPhone 6 qui va sortir. Alors vous savez, l'iPhone 6, tout le monde en parle et dit « Ouais, il y a une nouvelle fonction de géolocalisation encore plus précise que dans l'iPhone 5, ça va être vraiment bien. » Elle est pas Apple, ils s'en cachent pas, vous allez sur leur site, et ben ils l'ont fait en partie à la demande des entreprises. Alors je vais vous donner un cas qui s'est passé en Pologne. C'était des ouvriers polonais du déménagement qui en fait avait pris l'habitude de prendre le vendredi les déménagements les plus courts parce qu'en fait ils avaient pas envie de finir leur semaine épuisée, ce qui peut se comprendre, donc ils s'arrangeaient pour que le déménagement du vendredi soit le plus court, ce qui fait qu'au lieu de finir à 17-18 heures comme d'habitude, ils terminaient vers 12-13 heures, ce qui était bien pour eux, et ils rentraient chez eux. Et le patron, il le savait, mais comme personne parlait, il arrivait pas trop à savoir si c'était vrai ou pas, vous voyez, parce que personne disait. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a offert un iPhone à tous ses salariés. Ah oui. Et il a dit, c'est pour que vous puissiez rester joignable. Parce que vous savez, quand le week-end, si j'ai besoin de vous, s'il y a un extra, ou par exemple, si quand t'es dans la voiture et puis que t'es dans le camion et puis que j'ai besoin de te joindre, alors, le kit main libre, il marche qu'avec cet iPhone, donc je le mets à ta disposition. Et les salariés n'ont pas du tout fait attention. Et en réalité, tous les iPhones étaient programmés pour envoyer la géolocalisation des gens. Et le patron a tout simplement regardé où se trouvaient les gens à 13h et il a dit, c'est marrant, ils sont pas sur le lieu de chantier, ils sont plutôt à côté de chez eux, voire chez eux. Et il a licencié en bloc une série de salariés. C'est allé jusqu'à la Cour européenne, et la Cour européenne a admis que c'était légal. Parce qu'en fait, c'est un moyen simplement de savoir où se trouvent ses salariés, que ça n'a rien d'illégal. Ça rejoint d'ailleurs d'autres combats, comme les gens qui se battent contre le puçage des bêtes, vous savez, parce qu'ils disent que ça sera le puçage des hommes après. Ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que ces petits objets technologiques, ils servent avant tout à vous pister.
Oui.
Voilà. Oui. Et je voulais revenir dessus parce que beaucoup de gens l'oublient. C'est-à-dire que moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui les ont et puis qui disent « c'est cool parce que je peux m'en servir en vacances. C'est cool, je peux mettre mes photos de vacances dessus. » Génial.
Oui.
Je vous rappelle, tout ce qui est sur cet appareil appartient à l'entreprise. Vous voyez un petit peu le truc. Donc, je peux me connecter à Facebook avec mon téléphone. Ah oui, du coup, si vous connectez à Facebook avec votre téléphone d'entreprise, ça veut dire que vous laissez le droit à votre employeur de regarder ce que vous faites sur Facebook. Parce que par définition, tout le cache de votre ordinateur ou tout le cache de votre portable appartient à l'entreprise. Et Facebook est très gourmand en cache. C'est-à-dire qu'il se met en... Vous savez, il fait des fichiers temporaires à donf, mais qu'on peut lire très facilement avec un petit logiciel qu'on trouve facile, fastoche. Donc vous voyez, c'est un petit peu tout ça le truc. C'est que moi, je voulais revenir là-dessus parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça se multiplie. C'est-à-dire qu'avant, c'était généralement que les cadres qui avaient les cadres et les cadres sup qui avaient accès à des ordinateurs portables ou des téléphones ou des choses comme ça. Et en fait, au final, on se rend compte assez rapidement qu'aujourd'hui, on essaye de donner accès à ces outils au plus bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des ouvriers de production à qui on donne un téléphone d'astreinte. Vous savez, on dit c'est le téléphone d'astreinte. Oui. On est obligé de te le donner parce que c'est légal, on doit te fournir la ligne téléphonique. Le souci, c'est que le téléphone d'astreinte, en réalité, il peut aussi servir à vous pister le week-end.
Oui.
Et comme quand vous êtes en astreinte, vous êtes censé ne pas sortir de chez vous et rester dans un rayon de tant de kilomètres de votre entreprise, je ne sais pas si ça peut arriver, mais je pense que c'est possible que dans l'avenir, on dise aux gens, mais on sait que tu es allé, par exemple, à 80 bornes au lieu où tu n'avais pas le droit, et que donc, du coup, tu n'es plus dans le cadre de ton contrat. Mmh. Et on se rend compte que ces outils-là se démultipliant, il y a une volonté de plus en plus forte d'offrir de prendre une mainmise sur l'ensemble des salariés au travers notamment de la technologie du pistage numérique. Je vais finir sur un exemple de pistage parce que celui-là, moi, je l'ai lu et je ne le connaissais pas. Vous savez qu'il y a des nouvelles montres connectées. Vous savez, c'est des bracelets, on peut connecter son machin. En fait, toutes ces montres quasiment sont munies d'une puce GPS. Ce qui n'a aucun intérêt, si ce n'est de pouvoir savoir où vous vous trouvez. Donc, et ça, c'est assez impressionnant, parce que moi, j'ai lu ça, et je vous avoue, j'ai lu ça au départ sur un site, je me suis dit, c'est des conspirationnistes, c'est pas possible. Et en fait, je suis allé voir sur les sites des constructeurs, et ils disent qu'effectivement, il y a une micro-puce GPS. C'est-à-dire qu'en fait, au final, vous offrez vos déplacements et ce que vous faites à l'ensemble des patrons, des publicitaires, de tous ceux qui peuvent récupérer les métadonnées. Mais je voulais surtout mettre la lumière sur ce qui était en entreprise. N'oubliez pas que quand un patron vous fait un cadeau, c'est jamais un vrai cadeau.
En général.
Que quand il vous donne un outil, en général, c'est qu'il veut bien l'utiliser contre vous, sinon il ne le prendrait pas, et il ne vous le donnerait pas. Et puis surtout, n'oubliez pas quelque chose de très 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 important, c'est qu'il existe encore dans les entreprises des choses qui s'appellent les syndicats. Alors je sais que ce n'est pas à la mode, tout ça, que les gens ils disent qu'il ne faut pas se battre, ce n'est pas bien. Mais je vous rappelle que les syndicats, ils sont là quand même pour ça et pour vous expliquer les chartes informatiques notamment, parce que c'est généralement avec eux que ça a été négocié. Et c'est bien d'aller se renseigner quand on vous donne un outil, d'aller voir un représentant du personnel en lui disant « Écoute, qu'est-ce que ça implique que j'ai cet outil-là » Parce qu'il y a des choses, des fois, comme l'entreprise vous envoie un lien, vous dit vous devez lire ça, et ça fait généralement 50 pages, vous ne ouais. lisez pas.
C'est ça.
Et en fait, bah, généralement, on peut vous dire fais gaffe parce que cet outil-là, il y a ça et ça et ça qui sont reliés, et notamment le fait que tu donnes ta localisation. Et c'est très important de le savoir parce que, bah, voilà, comme je disais, il y a un exemple en Pologne là, avec ses ouvriers, hein, parce que c'était des ouvriers du bâtiment, hein, enfin des ouvriers des déménagements. Moi, je pense que ça va se démultiplier ces choses-là, que le but du patronat est de toute façon de mettre la pression de plus en plus et d'éviter ce qu'ils appellent le temps blanc, c'est-à-dire le temps où on est en pause, vous savez, où on fait rien, on est tous des feignants, c'est bien connu. Donc c'est pour ça, il faut vraiment se méfier de ces outils et faire très très attention à ce que on vous le donne et à pourquoi on vous le donne. Voilà. Et je terminerai juste sur une chose, c'est que je vais passer un titre là. Écoutez-le, il va vous faire un petit peu mal aux oreilles, mais ça fait du bien.
Dans les années 40, le rock'n'roll est né. La femme s'émancipe, a le droit de voter. Les nazis sont au tapis, l'OMS s'est lancé. L'ordinateur est inventé et PETA enterré. Les années 50, c'est le temps des happy days. Les goulags disparaissent, Staline nous fout la paix. Spoutnik est en orbite avec l'étoile Monroe. Pendant que Genève fête le Vietnam et le Laos. Les années 60, Kennedy est à terre. Armstrong est sur la lune, les hippies en colère. Cuba fait ses missiles graves, il retombe en hiver. Gaspard chante l'amour et Hatchet n'est plus en guerre. Les années 70, le punk est en fête. Misrine est démasqué et on pleure à Liège. Un champ de pétrolier assèche la planète. Nixon est à l'écoute, on fait de zéro pour les viettes. De la mort, des sangs, des rires, des larmes. Des guerres et des paix, du pétrole et des armes. Jusqu'à s'étonner. C'est l'ère du libéral, la chute du communisme et du navet spatial. Tchernobyl est en feu, c'est la méditation. Le virus du sida commence à frapper dans tous les rangs.
Et oui, c'était les Tagada Jones dans La Causerie sur Radio Canu, toujours au 102.2 et sur radiocanu.org pour ceux qui ne nous écouteraient à l'extérieur ou plus loin que Lyon.
C'est ça.
Et bah voilà, je n'ai jamais envie de passer ce titre, je vous le dis juste comme ça parce que c'est leur nouvel album et que je trouve que ben, c'est rare hein, pour des groupes comme ça, mais plus les années passent et plus les Tagada Jones sont bons. Donc voilà, donc je trouve que écouter le dernier album, il est vachement bien.
Ok.
Voilà.
Petite brève. Et ben, vite fait. Hein. Alors il y a l'appel aux dons qui continue toujours pour Radio Canu. Pour plus d'infos, vous allez sur radiocanu.org, vous aurez plein d'infos. Vous pouvez envoyer des chèques, vous pouvez faire des virements. C'est parce qu'on est toujours une asso et que bah, on a besoin un peu d'argent en fait, voire beaucoup d'argent. Et une autre info, une dernière. C'est en fait, il y a une conférence, elle a déjà été annoncée sur Radio Canu, hein. Il y a une conférence qui se passe à la Maison de la Guillotière, dans le 7e. C'est au métro Guillotière ou au T1 Saint-André, bah, l'arrêt Saint-André. Et la conférence, c'est la Galaxie Dieudonné pour en finir avec les impostures. C'est mardi 9 septembre à 19h. Et c'est organisé par le collectif Vigilance 69 contre l'extrême droite. Voilà.
Et ouais, dire qu'il y a un des auteurs de.
Oui, c'est ça. J'ai oublié, c'est Michel Briganti.
Voilà. Et ça peut être sympa d'aller discuter avec lui. Bah ils ont fait un super boulot. C'est un petit livre, hein, il n'est pas très très gros, mais oui, ils ont vraiment décrypté tout ce qui entoure la dieudosphère, comme on dit maintenant. Moi, j'ai une autre toute petite brève très courte, mais vraiment très très courte. Je voulais juste dire que. Alors, c'est aussi parce qu'on a salué les King's Queer et les copains. Et puis, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois en arrière, on avait eu Desireless dans l'émission et Desireless lance un grand truc pour lancer son nouveau clip qui va être très très décalé par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Et en fait, là par contre, c'est le problème. Je suis désolé, mais Desireless ne passe que par Facebook. Donc, allez sur Facebook, allez sur la page de Desireless et il y a un petit lien pour s'inscrire, pour recevoir un lien pour voir ce clip. Voilà, et qui devrait vous surprendre. Mais voilà, c'était juste histoire de dire que on continue à suivre les artistes qui viennent à la causerie et j'en profite pour faire un petit appel à la Deudoche Bleue qui nous laisse des petits messages de temps en temps. Reviens quand tu veux gratter ta guitare, on t'attend.
Et on va laisser la place à l'émission Les Yeux Grands Ouverts.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, qui est une émission de critique sociale, historique.
Ouais.
Voilà, et on vous souhaite une bonne semaine.
Et on se quitte avec les Emma.
Non, j'arriverai pas à le dire.
Die Antwoord.
Ouais.
Et c'est le titre
Babies on Fire.
Allez, des bisous.
Bonne écoute, bonne semaine. Ciao. I
motherfuckers.